Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi soir, 21 décembre 2020, pour écouter le journal d'information et notre commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. L'ambassade américaine à Bagdad a été prise pour cible de plusieurs missiles. Les gilets jaunes sont de retour. Les manifestants inondent à nouveau les rues. Et le Rwanda a envoyé des troupes de protection en Centrafrique. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le Comité des droits de l'homme du Parlement iranien a qualifié dans une déclaration de contraire au droit international la publication d'une résolution anti-iranienne sur les droits de l'homme. Le Parlement iranien fustige à cette occasion le suivisme et le soutien au terrorisme économique américain du Parlement européen. Selon un rapport de l'IRNA depuis le Parlement iranien, le dimanche 20 décembre, le Comité des droits de l'homme de l'Assemblée consultative islamique, présidé par Zohré Elayan, réagissant dans une déclaration adressée au président de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, a qualifié d'illégale la récente résolution anti-iranienne adoptée par l'organe parlementaire de l'Union européenne sur la question des droits de l'homme. Plutôt, la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère de l'Assemblée islamique a condamné dans une déclaration la résolution du Parlement européen imposant des mesures ciblées contre les responsables de la République islamique d'Iran sous prétexte de fausses accusations concernant la violation des droits de l'homme. L'ambassade reconvertie en base militaire américaine à Bagdad, capitale irakienne, a été prise pour cible de plusieurs missiles dimanche 20 décembre. Se référant à des sources de sécurité, les médias irakiens ont rapporté que plusieurs missiles ont été tirés dimanche soir sur la zone verte de Bagdad, une première attaque depuis début novembre visant cette zone diplomatique de la capitale irakienne. Selon une source de sécurité irakienne, les missiles ont été interceptés par le système de défense aérienne SERAM américain. Sabari News, proche de l'axe de la résistance irakienne, note pour sa part qu'11 missiles ont frappé l'ambassade. Ce site d'information affirme aussi que des sirènes d'alerte ont été entendues de l'intérieur de la 3e base Al-Tawhid de l'ambassade US, tandis qu'un hélicoptère espagnol survolait la base. Les chaînes de télévision Al-Mayadin et Al Jazeera ont rapporté que des hélicoptères de la coalition sous commandement US volaient au-dessus de l'ambassade base américaine. Al-Mayadin note également qu'un hélicoptère d'espionnage US survolait la zone verte. Peu après, les brigades du Hezbollah irakien ont émis un communiqué dans lequel elles ont mis en question cette attaque qui est, affirme-t-elle, inappropriée à l'heure actuelle. L'attaque arbitraire contre la base militaire américaine s'avère une véritable menace pour les civils. Les instances responsables doivent trouver les auteurs et les arrêter. Elles ont encore une fois exigé la fin des activités militaires américaines dans les zones d'habitation de Bagdad. Sachez également qu'un convoi logistique américain a été pris pour cible dimanche lorsqu'il circulait sur la route internationale de Nasiriyah en Irak. un groupe fraîchement fondé qui se fait appeler Rassem al-Jabarin a revendiqué l'opération. Rassem al-Jabarin a jusqu'ici revendiqué des attaques visant les convois militaires américains en Irak. Toujours en Irak, la 2e brigade de Hashd al-Shaabi a fait part dimanche d'une opération conjointe couvrant le désert de Najaf jusqu'à la frontière de l'Arabie saoudite. L'opération vise à éliminer les terroristes et à sécuriser la région. Nous sommes engagés dans une opération préventive avec le commandement de la police de la province de Najaf et la police fédérale, a déclaré la 2e brigade de Hashd al-Shaabi dans un communiqué d'ajouter. L'opération consiste en une vaste mission de recherche et de fuite dans une superficie de 1200 km et dans une profondeur de 170 km dans le désert de Najaf jusqu'aux frontières saoudiennes. Les daéchistes mènent de temps à autre des opérations dans certaines régions de l'Irak, dont Diyala, Kirkouk, Salah-Eddin et notamment les régions de l'ouest d'Al-Anbar. Les forces de sécurité irakiennes et les combattants de Hashd continuent de combattre les terroristes. Au Yémen, les combats font rage à Marib, autour de la partie ouest et nord, et la seconde base militaire d'importance de la province risque d'une minute à l'autre de tomber à Sarala avant sur deux axes, à Jizan dans le sud saoudien, port lui aussi pétrolier qui pourrait être, comme Jeddah, la cible d'attaque contre des pétroliers d'ici quelques temps, mais encore à Al-Dhali. Province stratégique dans le nord d'Aden. Les choses se compliquent pour un axe USA-Israël qui croit pouvoir scinder en deux le Yémen. Les mercenaires pro-Riyad ont ainsi subi un échec cuisant face aux combattants de l'armée d'Ansarala du Yémen dans la province d'Al-Zale sous l'occupation des éléments pro-Riyad où les civils crient leur colère contre les agressions saoudiennes. En Syrie, certaines sources d'information ont fait état de la destruction d'un avion espion turc et des attaques aux drones inconnus contre une raffinerie de pétrole exploitée illégalement par les terroristes soutenus par la Turquie. Plusieurs explosions consécutives ont résonné le dimanche 20 décembre dans le district d'Al-Bab de la province d'Alep dans le nord de la Syrie. Il s'agit d'une série d'attaques aux drones inconnus contre une raffinerie de pétrole située dans le village de Tarhin, dont des groupes terroristes à la solde de l'armée turque ont pris le contrôle et exploitent illégalement son pétrole. Par ailleurs, un avion espion de l'armée turque s'est écrasé au sol lors d'une opération à l'est de la ville d'Ain al-Arab, Kobané, dans la province d'Alep, au nord de la Syrie. Quittons la région et allons directement en France où les manifestants des Gilets jaunes sont à nouveau descendus dans la rue samedi pour contester la politique du président français Emmanuel Macron en pleine pandémie de coronavirus. Assemblés devant le Conseil d'État dans la capitale Paris, des centaines de manifestants ont défilé vers la place du Châtelet. Tenant des banderoles anti-Macron, les manifestants ont crié « Nous sommes là, même si Macron ne veut pas. » Et Macron, préparez-vous, nous vous ramènerons à la maison alors que le président français est en auto-quarantaine à cause du coronavirus. Au cours de la manifestation, ils ont ouvert des parapluies pour soutenir ceux qui avaient été arrêtés la semaine dernière dans le cadre d'une manifestation anti-islamophobie dans le pays. S'adressant à l'agence Anadolu, un manifestant a déclaré qu'il étaient de retour dans la rue pour défendre les libertés fondamentales. La police et la justice travaillent pour le gouvernement. C'est ce qu'on appelle la dictature, rien d'autre, a-t-il dit. Le manifestant parisien a dénoncé le projet de loi sur la sécurité et a déclaré que les gens étaient inscrits sur la liste noire en raison de leur religion et qu'ils étaient surveillés et suivis. Pendant ce temps, la police de Paris n'a pas autorisé les manifestations autour de l'Assemblée nationale et aux Champs-Élysées. Depuis le début, les Gilets jaunes sont implacables, descendant dans les rues tous les samedis depuis novembre 2018. En septembre, ils sont à nouveau descendus dans les rues pour la première fois depuis la crise de coronavirus, avec des revendications pour un mode de vie plus équitable. Les manifestations ont atteint leur paroxysme le 1er décembre 2018, lorsque des milliers de personnes se sont rassemblées pour protester autour de l'Arc de Triomphe, souvent leur lieu de prédilection. Et une page de l'actualité africaine, le Rwanda a envoyé des troupes en Centrafrique où des soldats servant sous mandat onusien ont été attaqués. Le gouvernement rwandais a déployé une force de protection en République centrafricaine dans le cadre d'un accord bilatéral de défense. Le déploiement est une réponse au ciblage du contingent des forces de défense du Rwanda RDF sous la force de maintien de la paix des Nations Unies, a indiqué dans la nuit le ministère rwandais de la Défense dans un communiqué. Aucun détail n'est donné sur la date du déploiement, le volume des effectifs déployés ou leur mission exacte. Le ministère précise seulement que les troupes rwandaises contribueront également à assurer des élections générales pacifiques et sécurisées prévues le dimanche 27 décembre. Le Rwanda est l'un des principaux pays contributeurs de la mission des Nations Unies en République centrafricaine MINUSCA depuis son déploiement en 2014. La MINUSCA compte environ 11 500 casques bleus. Le contingent rwandais de la MINUSCA est notamment chargé de la sécurité du président centrafricain Faustin Archange Touadéra et de la protection du palais présidentiel. Vendredi soir, trois des plus puissants groupes armés qui occupent plus des deux tiers de la Centrafrique avaient commencé à progresser sur des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale Bangui après avoir annoncé leur fusion. Le gouvernement a accusé samedi François Bozizé, l'ex-président, de tentative de coup d'État, lui prétend l'intention manifeste de marcher avec ses hommes sur Bangui, ce que son parti a démenti. Arrivé au pouvoir en 2003, avant d'être lui-même renversé en 2013, François Bozizé s'était déclaré candidat à la présidentielle de dimanche, couplé aux législatives et faisait figure de principal concurrent du chef de l'État. Mais la Cour constitutionnelle a validé sa candidature, estimant qu'il était sous le coup de sanctions des Nations Unies pour son soutien présumé à des groupes armés responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, selon la Cour constitutionnelle. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Méga-choc, cyber-coalition anti-US. L'administration américaine a été prise au dépourvu par un cyber-piratage sophistiqué. Le site web américain Dell a fait paraître, samedi 19 décembre, un article à propos de la récente vaste cyber-attaque qui a touché plusieurs secteurs des États-Unis. Voici des parties de cet article. La Russie a longtemps été considérée comme une menace dans le cyberespace. Mais après l'une des campagnes de cyber-intrusion les plus réussies de l'histoire des États-Unis, des questions se posent sur la façon dont le gouvernement fédéral a été si complètement aveuglé par une attaque que de nombreux experts avaient prévue. Le piratage réussi de plusieurs agences fédérales et de dizaines de milliers d'entités fédérales et privées individuelles, présumées être une intrusion russe, a renversé des protections sophistiquées en ciblant le fournisseur de logiciels tiers SolarWinds. Nous n'aurions pas dû être surpris. Les Russes sont très sophistiqués, ils sont très dévoués et implacables, et cela semblait être une cible molle qu'ils ont pu exploiter, a déclaré vendredi OL Christopher Painter, l'ancien coordinateur de la cybersécurité du département d'État. La Russie, aux côtés de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran, est considérée comme l'une des menaces les plus pressantes pour les États-Unis dans de multiples domaines. À la suite de l'élection présidentielle de 2016, lorsque des agents russes ont lancé une campagne vaste et sophistiquée destinée à faire basculer l'élection vers l'actuel président Trump, les principales agences fédérales ont entamé un processus de 4 ans destiné à consolider l'élection et à garantir que ce type d'attaque ne puisse jamais se produire, écrit Dell. Vendredi, des agences telles que le département de l'énergie et son administration nationale de la sécurité nucléaire, le département de la sécurité intérieure, le département d'État et le département du Trésor auraient été violées dans le cadre de l'incident d'espionnage. Sol Vines a signalé qu'il pensait qu'au moins 18 000 de ses clients avaient été compromis par le piratage. Les pirates ont accédé au système dès le mois de mars et les questions se sont multipliées sur la quantité de données qu'ils prenaient ou pouvaient accéder. Il s'agit de la cyberattaque la plus importante de l'histoire des États-Unis, a déclaré OL Tom Clermont, ancien membre d'une commission de cybersécurité de l'administration Obama. C'est sans précédent depuis 22 ans que je suis dans l'entreprise, dit-il. Clermont a déclaré que lui et son équipe pensaient que la Russie avait intensifié ses cyberattaques contre les États-Unis en représailles au succès de la sécurisation des élections de 2020. Il a noté que les attaques de rançongiciel contre les hôpitaux au cours de l'automne auraient dû être un signal et une ligne rouge indiquant une escalade dramatique. L'idée de renforcer les défenses de cybersécurité et de se concentrer sur les chaînes d'approvisionnement critiques pour les agences fédérales n'est pas un nouveau problème à Capitol Hill, les deux bénéficiant d'un large soutien bipartisan. Cependant, l'impasse partisane sur d'autres questions a rendu de plus en plus difficile le passage de la législation au Congrès, ralentissant les cyber-priorités. Les experts soulignent la menace que cette cyberattaque représente pour la sécurité nationale, non seulement en cas de prise de contrôle des infrastructures cruciales, mais aussi en cas d'accès au pilotage des réseaux de distribution de l'électricité ou d'autres services publics.
Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 20 décembre 2020. Décidément, la Turquie, mais aussi les États-Unis, se trouvent en mauvaise posture en Syrie. La Turquie a évacué ces dernières semaines une dizaine de postes d'observation militaire dans le nord-ouest de la Syrie. Ces postes plaçaient en fait la Turquie en face, juste en face de la Syrie et de la résistance. Dans ce contexte, et parallèlement justement à cette évacuation de postes d'observation militaire, la Turquie et ses mercenaires ont attaqué la ville d'Ayn Issa dans le nord-ouest de la Syrie. Cette ville a une importance stratégique en raison de sa position géographique dans la région, étant en effet la région et celle de l'autoroute M4 pour des observateurs. La Turquie chercherait à envahir de nouvelles régions dans l'est et le nord de la Syrie par le biais de ces attaques. Pour ce qui est de la situation des États-Unis en Syrie, alors une attaque a visé récemment une base de campement américaine sur la rive est de l'Euphrate. Et cette attaque, en effet, s'est produite peu après que l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU a mis en garde les États-Unis contre leur présence illégale en Syrie, exigeant le départ des troupes d'occupation américaine de la Syrie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les récents agissements de la Turquie dans le nord-ouest, notamment de la Syrie, mais aussi la position, en effet, des États-Unis en Syrie, et plus particulièrement dans cette région, c'est-à-dire dans le nord, dans le nord-ouest de la Syrie, à l'approche de l'entrée en fonction du nouveau président américain Joe Biden. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Les sanctions US qui ont frappé de plein fouet la défense turque ont-elles tiré la sonnette d'alarme à l'adresse de la Turquie atlantiste? Le député de Diyarbakir, Hoshyar Özsu, du parti HDP résumait jeudi devant les parlementaires turcs la situation de manière suivante. Mais regardez ce que fait la Turquie au Moyen-Orient. Soldats, équipements militaires ou encore mercenaires, c'est la Turquie qui les envoie et au besoin contre la Russie et l'Iran. C'est ce que nous avons fait en Libye et le monde entier le sait. Et que fait en revanche l'OTAN? Elle nous sanctionne. Dans le nord de la Syrie où les troupes turques se sont retirées ces dernières semaines, de pas moins de 11 postes d'observation à Idlib, à Alep et à Hama, postes qui les plaçaient juste en face de l'armée syrienne et de la résistance, avec en toile de fond des risques de très lourdes frictions impliquant même des tirs de missiles. Le sultan fait semblant depuis vendredi 18 décembre d'attaquer les positions des FTS. C'est à Ain Issa qui se concentre le gré de cette vraie fausse démonstration de force. D'ailleurs, cela faisait des semaines que les rapports circulaient à propos de la décision de l'armée turque d'attaquer les zones contrôlées par les forces démocratiques syriennes FTS qui soient, en passant, sont largement impliquées dans le trafic du pétrole syrien via l'Irak à destination de la Turquie qui le vend pour financer les entreprises de conquête otano-américaines. Par ailleurs, une attaque d'envergure a visé le vendredi 18 décembre la base de campement américaine à Al-Omar sur la rive est de l'Euphrate. Cette frappe a eu lieu peu après que l'armée syrienne a autorisé avec un commun accord avec la résistance le déploiement des unités de l'armée russe à Abu Kamal avec en toile de fond des patrouilles militaires Syrie-Russie sur ce passage frontalier stratégique qui relie la résistance syrienne à la résistance irakienne, les patrouilles russes répondant évidemment à un objectif de dissuasion anti-US. La frappe s'est produite peu après que l'ambassadeur iranien à l'ONU a mis en garde mercredi les USA contre leur présence illégale en Syrie, exigeant le retrait des troupes d'occupation du territoire syrien. De nombreux analystes y ont vu un premier avertissement du genre avoir été lancé par la résistance, alors que les tensions dans la rive est de l'Euphrate ne cessent d'accroître.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Alsace, Maître André Chamis, juriste international et sociologue. Et depuis Damas, Maître Arnaud Develet, lui aussi juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Maître Chamis.
Maître Develet, ces derniers temps, la Turquie s'est livrée à deux agissements parallèles. D'une part, elle a évacué une dizaine de postes d'observation militaire dans le nord-ouest de la Syrie. Et en même temps, elle a attaqué, en effet, avec ses mercenaires, la ville stratégique d'Ain Issa. Dans quel contexte replacez-vous, Maître Develet, ces agissements d'Ankara? Où en est-on, justement, de la situation de la Turquie en Syrie, et plus particulièrement dans le nord et l'est de ce pays?
Eh bien, écoutez, tout d'abord, il semblerait que la Turquie, plus que jamais, au travers de sa politique étrangère dans la région, se retrouve confrontée à ses propres contradictions, à savoir faire partie du groupe d'Astana dans le cadre des accords et du dialogue qui a pour but de politiquement stabiliser la région. Et de l'autre, comme membre éminent de l'alliance otanesque, sur lequel Washington compte pour déstabiliser la région. En ce sens, ce qui s'est passé dans le nord-ouest, donc la région d'Idlib, participe de l'exécution des accords qui avaient été conclus avec Moscou au mois de mars dernier, mais au-delà de ça, à Sochi. Et en même temps, ce qui se passe à Ain Issa, participe au contraire de cet effort continu de la Turquie en tant que représentant de l'OTAN dans la région à créer des zones de déstabilisation, sachant que la Turquie se retrouve un peu coincée dans le sens où elle a alimenté un vivier de terroristes pendant des années et qu'elle ne sait plus quoi en faire et donc elle cherche des prétextes pour pouvoir créer des zones d'influence dans lesquelles elle peut ensuite faire mine d'exécuter ses obligations avec les uns tout en poursuivant les objectifs de déstabilisation des autres. Et donc toutes ces attaques sont en fait ou ces déplacements ou ces repositionnements sont un jeu de mime, un jeu de dupes. Et la Russie en est parfaitement consciente, mais comme disait le président de la Fédération de Russie encore récemment en parlant de son homologue turc, le président Erdogan suit les intérêts de son pays et ne s'arrête jamais en ce sens jusqu'à ce que ses objectifs soient accomplis. Je pense que nos téléspectateurs n'auront pas manqué de souligner l'ironie de cette déclaration, mais effectivement c'est une situation ubuesque. Et en toile de fond, on a ce nouveau foyer de déstabilisation dans le Haut-Karabakh où, alors même qu'une trêve a été conclue il y a maintenant quelques semaines, la Turquie essaye de prendre le contrôle du poste de cessez-le-feu, enfin de la supervision du cessez-le-feu, en écartant un petit peu du bras les Azéris, de façon à pouvoir se ménager une porte de sortie ou peut-être il lui sera possible de continuer plus ou moins ce jeu de transfert de combattants par proxy, parce que tout ça participe, quoi qu'on puisse en dire, que ce soit ses activités dans le Haut-Karabakh ou ses activités dans le nord de la Syrie, à cet effort par l'OTAN. Et ça, Jim Jeffrey, l'ancien envoyé spécial US pour la Syrie, l'a bien souligné lors d'une conférence récente au centre de réflexion de le Forum pour la défense de la démocratie. L'objectif avant tout, c'est d'empêcher la Russie et l'Iran d'asseoir leur influence dans la région. Donc tout cela participe à suit ce plan, et je ne vois pas en quoi l'arrivée de l'administration Biden, bien au contraire, changerait cet objectif stratégique.
Merci infiniment pour ces précisions, Maître Deville. Rester avec nous. On va tout de suite rejoindre Maître André Chamy depuis Alsace. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci à... Enfin, bonjour à vos téléspectateurs ainsi qu'à votre invité, Maître Deville.
Maître Chamy, dans le cadre de sa politique de déstabilisation, comme disait Maître Develay, en Syrie, mais aussi dans la région en général, la Turquie, selon certains observateurs, chercherait, par le biais des attaques contre les villes stratégiques d'Ayn Issa, à envahir de nouvelles zones, de nouvelles régions dans le nord et l'est de la Syrie. Est-ce que là, il ne s'agit pas plutôt, d'une fuite en avant de la politique étrangère d'Erdogan, d'autant plus qu'aujourd'hui, justement, la Turquie d'Erdogan se voit confrontée, comme disait Maître Develay, à de véritables contradictions en politique étrangère.
Je n'oserais pas parler de contradictions, parce qu'en réalité, le président Erdogan a toujours brillé, si j'ose dire, par une politique bicéphale. Il a toujours été schizophrène, c'est-à-dire d'un côté, il jouait le rôle de médiateur, d'ailleurs dès le début de la Syrie, de la guerre en Syrie, il s'est rapproché d'abord des autorités syriennes pour dire « on va vous aider », etc. Mais en réalité, il était en train de les poignarder dans le dos. Et il préparait le passage des terroristes depuis son propre territoire en direction de la Syrie. C'est un secret pour personne. Et il a continué la même politique, c'est-à-dire d'un côté il dit « je veux aider la Syrie », mais en même temps, quelle Syrie et après quoi? C'est-à-dire après la destruction de la Syrie, qu'est-ce qu'il veut faire? La bataille d'Alep a été, je dirais, symbolique pour ce qui s'est passé du côté turc et du côté de la frontière avec la Syrie. Pareil par rapport au passage des armes, du matériel, de l'argent des deux côtés de la frontière entre la Syrie et la Turquie, avec le soutien direct d'Erdogan. D'ailleurs, entre autres, il a sanctionné les officiers de police et ceux de l'armée qui ont osé objecter ou faire des objections concernant cette politique-là, ou en tout cas la dénoncer sur place. Vous constaterez également que la Turquie a également profité de l'évasion, si j'ose dire, des industriels turcs, syriens, pardon, depuis Alep, qui se sont installés tous dans les zones frontalières. Aujourd'hui, ces mêmes industriels produisent depuis la Turquie, emploient des Turcs et génèrent de la richesse pour la Turquie, et ce au détriment de de l'économie syrienne, et surtout que il y a un nombre incalculable d'industries syriennes qui ont été volées avec l'aide et le soutien des Turcs, et plus particulièrement de la bande d'Erdogan. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne peux pas oser dire, moi personnellement, depuis le premier jeu, si j'ose dire, d'Erdogan en Syrie, qu'il y a une contradiction. Il est dans la conformité, c'est-à-dire d'un côté, il dit quelque chose, mais de l'autre côté, quand il agit toujours contre la Syrie, contre le peuple syrien et contre la souveraineté syrienne. À partir de là, on comprend le motif. Le motif est d'abord d'avoir un rôle régional pour contrebalancer ce qu'on appelle le rôle des sunnites du côté Arabie Saoudite. Il est devenu l'opposant des Saoudiens dans la zone, à tel point qu'il a divisé presque le Golfe ou les pays du Golfe en deux parties. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'Arabie Saoudite, à tel point qu'aujourd'hui, il a une alliance stratégique avec le Qatar pour contrecarrer le rôle saoudien dans cette zone-là. Il en est de même concernant le Maghreb. Vous constatez qu'il prend également de l'ampleur dans ses interventions dans cette zone-là, parce qu'il veut absolument avoir un rôle régional pour le monnayer. J'ai toujours dit que c'est un Machiavel. Il a bien lu ce livre-là, puis il essaie toujours de faire des pas pour avoir le retour de son intervention ou de sa démarche. Il l'a fait de la même manière en Azerbaïdjan, c'est-à-dire quand il attaque les Arméniens et aide les Azéris à réaliser une victoire contre les Arméniens. En réalité, c'est vrai que les Azéris aujourd'hui se sentent un petit peu victorieux à travers cette entre guillemets bataille, mais ce n'est pas la guerre. Mais ça crée également des tensions qui vont durer pendant des décennies, parce que les Arméniens vont rester sur cette blessure-là et vont chercher à tout prix à chercher une revanche, à avoir une revanche. Le rôle turc dans cette zone-là est un rôle purement et simplement néfaste et qui ne sert que les intérêts de M. Erdogan, qui sert la personne d'Erdogan, c'est-à-dire la Turquie en tant que pays qui devait avoir zéro ennemi autour, n'a que des ennemis autour aujourd'hui. La Turquie n'a pas d'excellent rapport avec l'Irak, n'a pas d'excellent rapport avec la Syrie, n'a pas d'excellent rapport avec l'Europe de l'autre côté, et l'Iran évidemment a des rapports que j'appellerais pareil, du même genre, c'est-à-dire presque bicéphale, c'est-à-dire d'un côté, et on essaye d'avoir la Turquie comme partenaire, mais en même temps, on s'en méfie parce qu'on connaît le sens de la traîtrise du côté Erdogan. Et cela ne crée pas de stabilité à l'intérieur de la Turquie. À cela se rajoutent, bien entendu, les problèmes internes de la Turquie, et notamment par rapport aux Kurdes, qu'elle essaye d'exporter vers la Syrie et essaye de régler le problème des Kurdes en Syrie ou en Irak. C'est-à-dire, d'un côté, on essaie de négocier avec les Kurdes d'Irak parce qu'ils deviennent des sécessionnistes en quelque sorte, mais en même temps, on essaie de combattre les Kurdes de Syrie pour les adosser aux Kurdes d'Irak, pour créer une zone qui sera toujours une zone qui leur permet d'intervenir pour créer des tensions et bafouer la souveraineté syrienne et assurer les intérêts de l'OTAN et de ses alliés. C'est-à-dire, c'est un jeu qui peut durer longtemps si jamais cette situation ne devait pas s'arrêter. Raison pour laquelle, à mon sens, la Russie aura un rôle de stabilisation, de stabilisateur, parce que si la Russie n'intervient pas et si l'Iran ne commence pas à hausser le ton et si les forces syriennes de résistance ne bougent pas sur place pour mener des véritables guérillas contre les Turcs, évidemment, cette situation risquerait de durer. Mais il faut à ce moment-là que les Turcs sachent que plus ça dure, plus leur usure va se poursuivre, parce que la Syrie ne va pas rester bras croisés avec l'axe de la résistance derrière. Cet axe va mener des combats, va mener des batailles, va mener des attaques contre la présence turque jusqu'à ce que cette présence disparaisse. Et là, on est dans le grand jeu, si j'ose dire, de redistribution de rôles. Est-ce qu'il y aura un retrait turc rapide, où ça prendra plusieurs mois, voire plusieurs années? nous sommes en train d'assister au début de cette reconfiguration. Soit les Turcs comprennent vite avec les nouveaux joueurs d'alliance et ils se retirent, soit ils ne comprennent pas. Et à ce moment-là, à mon sens, le travail de guérilla va commencer et ils devront subir très rapidement les attaques qui vont être incessantes et très agressives, très méchantes à l'encontre de leurs forces afin de les pousser à dégarpir.
Merci infiniment, Maître Chami. Restez avec nous, s'il vous plaît. Maître Develay, alors, Maître Chami l'a rappelé, la Russie et l'axe de la résistance ne resteront pas à bras croisés face, bien sûr, aux agissements, non seulement de la Turquie, mais aussi des États-Unis. Et dans ce contexte, la Russie, en effet, exerce des pressions sur les forces démocratiques syriennes pour qu'elles cèdent, en effet, la ville stratégique d'Ainissa au gouvernement syrien. Et toujours dans ce contexte, alors une attaque a visé une base de campement américain sur la rive est de l'Euphrate dans le contexte de manifestations anti-américaines des tribus dans cette région. Ceci étant dit, est-ce qu'il faudrait s'attendre à une confrontation d'ampleur entre d'une part la Turquie et les États-Unis et de l'autre l'axe de la résistance et la Russie?
Oui, ben écoutez, c'est dans le prolongement de ce que je disais plus tôt en termes de la contradiction, parce qu'effectivement, Maître Chami l'a souligné, la Turquie essaye d'un côté d'expulser ses propres Kurdes et d'adosser les Kurdes syriens à ses frères, entre guillemets, irakiens, mais ce faisant, et alors que la situation se tend de plus en plus dans le nord-est, avec l'OTAN et avec le pillage des ressources naturelles, lesquelles financent l'érection de structures quasi-étates dans la région, on voit bien que tout ça se dirige vers l'objectif américain, parce que c'est l'objectif américain dans cette région, c'est créer un État kurde. Voilà. Le mot est lâché. L'idée, elle est parfaitement cohérente avec cet objectif stratégique de briser l'axe de la résistance qui irait donc de Téhéran jusqu'à la Méditerranée et la création d'une entité artificielle au détriment de pas moins de 3 pays, voire 4 pays, serait tout à fait acceptable pour les Américains. Donc, plus cette situation dure, et moins les Turcs adoptent une position cohérente eu égard à ce jeu de miroir, plus ils seront eux-mêmes, au même titre que d'autres pays dans la région, affectés par cet état de fait, parce que ce sera une politique du fait accompli. Et nous savons très bien que cette politique du fait accompli dans une autre partie de la région a toujours été source de problèmes, tant au niveau diplomatique qu'au niveau militaire, qu'au niveau humanitaire. Cette situation doit être adressée, elle doit être adressée urgemment, et elle doit être dénoncée de manière explicite ce qui se passe dans le nord-est syrien. Ce financement de ce projet a lieu, et les Turcs y participent, ce qui rajoute à cette contradiction. Et ce qui rend difficile après, dans ce sens-là, leur position de vouloir dire « nous luttons contre le terrorisme et le séparatisme kurde », alors qu'ils contribuent eux-mêmes à alimenter un foyer de sécession, si je puis dire, voire même la création d'un État ex nihilo, essentiellement.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, quant à la situation des États-Unis, et plutôt au projet, en effet, au stratagème des États-Unis en Syrie. Est-ce que là, il s'agit de créer un foyer de sécession, comme disait Maître Develay, par le biais justement de leur présence illégitime et illégale en Syrie, d'autant plus que ces derniers temps, vous avez rappelé vous-même, justement, la Syrie, la Russie, mais aussi la République samedi d'Iran continue de hausser le ton, en effet, contre la présence illégale des Américains en Syrie.
Que les Américains aient un projet de partition de toute la région, si j'ose dire, et pas que cette zone-là, c'est une évidence. La volonté est de diviser l'ensemble des pays de cette région-là en peuples divisés par des ethnies, par des motifs ethniques, par des motifs confessionnels, religieux, et bien entendu, pourquoi pas d'autres motifs que l'on invente au fur et à mesure et surtout en fonction de chaque situation, en donnant à chaque fois à chaque groupe des gages comme quoi on vous soutient si vous allez dans ce sens-là. Et les Kurdes, par bêtise, moi je dis que par bêtise, continuent d'œuvrer pour le compte des Américains, mais contre les intérêts des pays auxquels ils appartiennent. Parce que moi je ne pense pas objectivement qu'il puisse y avoir un jour une entité kurde dans le sens d'un État. D'ailleurs, je ne sais pas comment cet État peut survivre, à moins que cet État voulu par les Kurdes se fasse sur les cendres de 4 ou de 5 États de la région, ce qui serait juste impossible. Les Américains n'ont pas les moyens de rentrer dans cette perspective-là, sauf qu'ils donnent de l'espoir à ces gens-là, et puis bien entendu, pendant ce temps-là, ils les exploitent. Les Occidentaux sont convaincus que ça ne peut pas avoir lieu, mais on continue de donner cet espoir, et les Américains les utilisent pour servir leurs intérêts. Maintenant, les Américains ne sont pas faits pour durer dans cette zone-là. Ils attendent, encore une fois, comme Erdogan, des contreparties, c'est-à-dire quel type de relations ils auront avec la Russie, avec l'Iran et bien entendu avec la Syrie, parce que la Syrie, ce n'est pas la Syrie en guerre, c'est la Syrie de demain, c'est-à-dire quel sera le rôle de ce pays qui se trouve, par l'effet de la géographie et par l'effet de l'idéologie du système, en face de l'entité sioniste, c'est-à-dire est-ce que vous allez rester ennemi avec cette entité qu'on a placée et qu'on a protégée pendant des décennies pour être le gendarme de la région, ou vous allez normaliser, regardez voir, c'est toute la région qui est en train de normaliser. En réalité, on est en train de changer de paradigme dans la région. C'est-à-dire, on donne l'impression que la région est en train de changer de philosophie, la philosophie de la normalisation avec l'entité sioniste, pour dire, il ne reste que les Palestiniens. Bon, on peut trouver une petite solution pour eux. D'ailleurs, on commence à reprendre des contacts, comme par hasard, du côté des traites, c'est-à-dire les Jordaniens et les Égyptiens, pour essayer de ramener les Palestiniens de nouveau à négocier avec les Américains, avec l'entité sioniste. Il resterait donc qui ? Le Liban et la Syrie. Et on essaie de mettre la pression sur le Liban et sur la Syrie, économiquement, politiquement, voire militairement, pour qu'ils acceptent cette normalisation-là. Mais à mon avis, ce n'est pas prêt d'être fait, parce que là, il faut regarder l'objectif final. L'objectif final, ce n'est pas juste une petite destruction par-ci, par-là. Quand je dis une petite destruction, ce n'est pas une caricature, mais c'est pour dire, pour eux, c'est juste des petites manœuvres sur le terrain. Mais pour eux, c'est la reconfiguration de toute la carte de la région. Est-ce que vous serez à ce moment-là dans l'axe américain ou vous serez contre l'axe américain? Si vous rentrez dans la normalisation, vous serez dans l'axe américain, et si vous êtes toujours dans la résistance, vous serez hors de l'axe américain.
Merci infiniment, merci beaucoup.
Les attaques pourraient continuer.
Maître André Chamy, juriste international depuis Alsace, Maître Arnaud Develay, lui aussi juriste international, journaliste depuis Damas. Je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
Nissan, une race de cheval iranien éteinte. Le Nissan est une race de cheval éteinte dont les origines sont attribuées à la ville de Nissa, qui se trouverait probablement dans le sud des montagnes Zagros, en Iran. Les premières références écrites concernant le cheval de Nissan remontent à environ 430 avant notre ère. Hérodote écrit « Devant le roi arrivent d'abord un millier de cavaliers, des hommes d'élite de la nation perse, puis un millier de lanciers, du même choix de troupes, avec leurs fers de lance pointés vers le sol. Ensuite, 10 chevaux sacrés appelés Nissan, tous délicatement caparaçonnés. Ces chevaux sont appelés Nissan parce qu'ils viennent de la plaine de Nissa, une grande plaine de la Médie, donnant des chevaux de taille inhabituelle. Ces chevaux étaient très recherchés dans le monde antique. Les Nissan auraient des robes de différentes couleurs, le bai foncé, le marron et le silk brown, mais aussi des couleurs plus rares telles que le noir, le rouin, le palomino doré et divers motifs tachetés. Les descriptions inscrites dans des documents anciens insistent surtout sur la forme de la tête du Nissan. Il n'avait pas la tête allongée du cheval arabe qui était également élevé au Lorestan, Zagros, dans l'Antiquité, mais une tête plus robuste qui était caractéristique du grand cheval de guerre. Cela suggère que le Nissan pourrait être un descendant du cheval primitif appelé cheval de la forêt. À l'époque de la dynastie des Achéménides, 559-330 avant Jésus-Christ, les Grecs appelaient ce cheval Nissaen en l'attribuant à la ville de Nissa. Plus tard, sous les Arsacides Parthes, 250 avant Jésus-Christ, les Chinois l'appelaient le Tianma, cheval céleste. Le Nissaen fut vraisemblablement le cheval le plus apprécié de l'Antiquité, est considéré également comme le plus beau cheval du monde. Pour décrire la beauté de sa robe, on disait parfois que certains Nissan étaient merveilleusement tachetés comme des léopards ou qu'ils étaient aussi dorés qu'une pièce nouvellement frappée. Dans l'ancienne Perse, le Nissan était la monture royale et hautement appréciée par la noblesse. Selon la tradition, de Nissan, gris tirait le chariot royal du chat, tandis que, selon la légende, 4 de ses chevaux royaux tiraient le chariot du dieu Ahura Mazda. Des pièces d'argent du temps de Cyrus le Grand, 559-530 avant Jésus-Christ, le montrent en train de chasser à cheval avec une lance. Pendant le règne de Darius Ier le Grand, 521-486 avant Jésus-Christ, les cheveux Nissan étaient élevés d'Arménie, Caucase, à Sogdiane, Asie centrale, et sur le plateau iranien. Le Nissan était si recherché que les Grecs, principalement les Spartiates, en apportaient et les élevaient. À l'ouest, les tribus nomades, comme les Scythes, importer, capturer ou même voler des cheveux Nissan. D'après des descriptions anciennes, les Nissan pur sang avaient plusieurs traits caractéristiques qu'ils transmettaient à leurs descendants. L'un d'eux était des boutons osseux sur le front, souvent appelés cornes. Plus tard, les Grecs exportèrent de nombreux Nissan sur la péninsule ibérique où ces cheveux orientaux ont fortement influencé les ancêtres des cheveux espagnols d'aujourd'hui. À l'époque des Achéménides, les Nicéens blancs purs étaient les cheveux des rois. Mais certains documents soulignent qu'avant les Achéménides, les Mèdes furent les premiers éleveurs des Nicéens. Les Assyriens, qui appréciaient beaucoup ces cheveux, organisaient souvent des campagnes militaires au printemps pour attaquer les Mèdes et s'emparer de leurs cheveux qu'ils amenaient dans le nord de la Mésopotamie. La bataille qui eut lieu près de la ville actuelle de Harran, Turquie, finit par une victoire décisive des Arsacides conduits par Surena, le grand général de la cavalerie parthe, sur les légions romaines dirigées par Crassus. En 36 avant Jésus-Christ, le consul romain Marc Antoine voulut venger la mort de Crassus en attaquant la Médie avec 16 légions. Mais les Parthes ne se livrèrent pas à la guerre de la manière à laquelle s'attendait le consul romain. Cela ramena Marc Antoine à ravager l'Arménie. Il conduisit en Égypte le roi arménien Artavadze II, qu'il considérait comme traître. Parmi les butins de guerre obtenus par les Romains en Arménie, il y avait les premiers chevaux Nicéens, les premiers que les conquérants amenèrent à Rome. À la mort de Marc Antoine, ses cheveux tombèrent entre les mains d'Auguste. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de votre écoute et au revoir.